Voilà, donc on va continuer l'étude dans Luc, qu'on suit depuis un petit moment maintenant. Lisons ensemble dans Luc 9. Il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et partout où les gens ne vous reçoivent pas, en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village, ils annonçaient la bonne nouvelle et opéraient partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, apprit tout ce qui se passait et il était perplexe. Car les uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean, alors qui est celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Les apôtres, à leur retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui en avaient besoin, ceux qui avaient besoin de guérison. Le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent donc et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver du ravitaillement car nous sommes ici dans un lieu désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées d'une 50aine. » Ils firent ainsi et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Un jour que Jésus pria à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. « Les foules qui disent-elles que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des anciens prophètes ressuscité. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Le Christ de Dieu. » Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même. En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce passage. Merci parce que tu es le même que ce Jésus qu'on voit dans ce passage. Tu es vivant aujourd'hui, Seigneur, et tu veux nous parler, tu veux nous révéler des choses par ces paroles. Tu as quelque chose à dire à chacun de nous ce matin. Aide-nous à avoir les cœurs ouverts, à être prêts à entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. On te remets ce temps, Seigneur, ensemble, et on s'attend à toi. Amen. Donc on commence avec la mission donnée aux 12 apôtres, qui est un passage intéressant. C'est un petit peu un moment fédérateur pour les 12, parce qu'ils suivaient Jésus. Mais ils n'étaient pas vraiment identifié comme tel avant. Il y avait d'autres disciples, d'autres gens qui suivaient Jésus. Et c'est un moment intéressant parce que c'est 12 hommes qui vont changer d'une certaine manière le cours de l'histoire, qui vont changer le monde tel que nous le connaissons, bien sûr à cause de Jésus, pas par leur propre force ou par leur propre intelligence, mais c'est 12 hommes que Jésus choisit pour une mission incroyable. Et ici, il les envoie un petit peu c'est une première tentative, c'est un moment intéressant. On peut presque se demander pourquoi il les envoie comme ça. Il leur donne la puissance et l'autorité. La puissance, c'est la capacité de faire les choses incroyables que Jésus faisait. C'est un morceau de son esprit. En quelque sorte, c'est un peu son quelque chose de sa force. C'était quelque chose. On ne sait pas comment exactement il leur a donné ou ce que ça représentait, mais en tout cas, il leur donne ça et il leur donne l'autorité, il leur donne la permission en quelque sorte. Il leur dit « je vous donne ça et je vous donne mon autorisation de vous servir de tout ça ». On a plusieurs, on voit dans Marc et dans Matthieu ce même épisode relaté avec différents petits détails. Mais ça reste la même chose. Et moi, quand je viens à ce passage, ma première question, c'était quel était son objectif. J'essaie de lire. Alors évidemment, dire quel était l'objectif de Jésus, c'est toujours un peu difficile. C'est pas évident de voir, et c'est pas toujours quelque chose que Jésus veut forcément rendre évident au premier abord. Alors, mes tentatives, on va dire, d'explication, ma manière de voir la chose et d'essayer d'expliquer ça. La première chose, peut-être, c'est tout simplement l'idée de comment est-ce que les nouvelles étaient répandues à cette époque-là. Aujourd'hui, on a la radio, on a Internet, on a la télé, on a le téléphone, on a les journaux, on a toute une infrastructure. À l'époque, si quelque chose se passait à Nice, pour qu'ils en soient au courant à Cannes ou à Antibes ou même à Paris, il fallait que quelqu'un, soit il aille en courant, on connaît les histoires des Grecs avec Marathon, etc., soit qu'il aille en cheval, ou il n'y avait même pas de chemin de fer, il n'y avait rien, donc ça prenait énormément de temps. On a du mal à se rendre compte aujourd'hui de ces choses-là, de la lenteur de la transmission de l'information à ces époques-là. J'ai regardé la semaine dernière un documentaire très intéressant sur le début du télégraphe. Et avant ça, il disait le moyen le plus rapide de transmettre un message, c'était de le donner à quelqu'un et d'y aller en chemin de fer ou à cheval. Mais sinon, il n'y avait rien. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, on se rend pas compte, mais à l'époque, c'était quelqu'un allait sur la place du village et criait, les autres entendaient ou le disaient à leurs voisins, le disaient aux gens. Alors c'était une culture très différente où ils parlaient peut-être beaucoup plus. Il y avait une tradition orale de transmission, mais il n'y avait pas d'autre moyen pour transmettre des nouvelles que d'envoyer des gens. Et donc Jésus, pour moi, d'une certaine manière, il dit je veux envoyer ma nouvelle le plus possible. Et se servir des 12 là, c'est les plus faciles de le faire. Donc il les envoie avec sa puissance et son autorité pour chasser les démons, pour guérir les malades, et aussi pour prêcher et pour enseigner le fait que le royaume était proche. Et ça, on va voir que le message se répand assez rapidement. C'est d'autant plus incroyable et quand on y réfléchit par la suite, l'Église, le développement de l'Église à l'époque, c'est d'autant plus impressionnant de se rendre compte à quelle rapidité l'Église a réussi à pousser le message de Jésus, l'Évangile, avec une telle rapidité. Ça nous met au défi, ça devrait nous faire honte de nous dire qu'ils ont réussi à faire parler d'eux en quelques années, de partout dans le monde de l'époque. Et ici, on voit dans le passage avec Hérode que même les chefs, les dirigeants de l'époque commencent à entendre parler de ça, se demandent qui c'est ce Jésus. On peut voir que Jésus les envoie légers, sans grand chose, pour qu'ils couvrent le plus de terrain possible. On a l'impression que c'était un peu une mission guérilla. Il les envoie en mode vous souciez pas, vous avez pas de chariot, de sac à dos, de trucs qui va vous ralentir, vous y allez quoi. Il y a plein de commentaires, on peut lire les détails sur chaque élément, sur chaque chose, mais en essence, c'est un peu comme quand on part, je sais pas si vous êtes déjà allé faire du camping, mais moins vous avez, plus vous avancez, et vous pouvez couvrir de sacrées distances rien qu'à pied. Et j'essayais de me mettre à la place des disciples dans ce moment-là, et d'avoir Jésus qui... Ils sont avec Jésus depuis un certain temps, ils ont vu des miracles assez incroyables, ils ont vu Jésus faire des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. C'était des hommes simples, ce n'était pas des puissants du monde. Et là, ils ont cette autorité, cette puissance. Et alors ma première réaction, c'est de me dire qu'ils devaient peut-être faire un peu les malins quand même. Ça devait peut-être les rendre un peu fiers. On voit plus loin qu'ils débattent pour savoir qui est le plus grand d'entre eux. On voit qu'ils essaient plus loin avec les 5000 d'expliquer à Jésus ce qu'il faut qu'il fasse. Alors il y avait peut-être un peu de ça, mais je pense qu'ils faisaient quand même quelque chose de correct, parce que les gens ne parlent pas des 12 ou d'un groupe de gens qui font des miracles, mais ils parlent de Jésus. Le centre reste sur Jésus, l'attention reste sur Jésus. Et j'ai presque envie de dire bravo aux disciples qu'ils ont réussi à garder le cap et à pas s'emballer. Ils savent d'où leur vient leur puissance, ils savent ce qu'ils ont reçu. Ils font, je pense, honneur à Jésus par leur manière d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est intéressant ici aussi de se demander quelle était la bonne nouvelle qu'ils annonçaient. Parce que nous, on dit la bonne nouvelle, mais c'est après coup, avec Jésus qui est mort, qui est ressuscité, etc., et de se demander qu'est-ce qu'ils annonçaient à ce moment-là. Alors dans les autres passages qui relatent cet événement, il leur dit d'annoncer le fait que le royaume était proche, que le royaume de Dieu venait. Et ça aussi c'est intéressant, et on va regarder dans la suite et se poser quelques questions, mais cette idée du royaume qui venait, ça, les gens de l'époque ne comprenaient pas non plus. Et ils étaient vraiment à côté de la plaque, donc c'est... Mais ils annonçaient la bonne nouvelle. Je pense qu'ils n'annonçaient même pas le fait que le Messie était là, parce que juste après, Jésus leur dit de ne pas dire aux gens que c'est le Messie. Donc c'est vraiment... Il annonçait que le royaume était là, que Dieu était souverain et qu'il fallait se repentir. Je me demande quelle réaction ils avaient. Je me dis que nous, on... J'allais en parler après, mais c'est aussi à propos ici, mais l'idée que le royaume de Dieu est là, que Dieu règne, qu'il y a une bonne nouvelle, ça devrait aussi nous changer notre perspective. changer la manière que nous avons de voir le monde. Même nous, en tant que chrétiens, parfois, on a un petit peu une approche où on dit oui, d'accord, ça, Dieu, Jésus est mort, on peut être sauvé, mais le mal va avancer jusqu'à la fin, ça va être de plus en plus noir, ça va être de plus en plus mauvais, jusqu'à ce que Jésus revienne vraiment changer les choses. Et nous, en tant que Français, ou en vivant en France, on aime d'autant plus le côté négatif, on aime bien appuyer sur le pessimisme et dire « Oh, c'est vraiment horrible, ça va de pire en pire, c'est... Oh. » Et moi-même, on se prend là-dedans, on est négatif, on se réveille le matin, on lit les nouvelles et la journée part bien, quoi. Et ici, l'idée, c'est que non, il y a la lumière qui pousse, c'est un petit peu, enfin, de manière marrante, mais dans un des Batman, pour citer mes références, j'ai pas mal de références cinématographiques quand j'enseigne, il y a un des moments où il y a un des gars qui dit que la nuit est la plus noire juste avant l'aube. Et ça me fait penser un petit peu à ça, et cette idée que non, que la lumière pousse, et que juste avant l'arrivée du royaume, la fin, ça va éclater, quoi. Ça va être un chamboulement, et que nous, en tant que chrétiens, on devrait avoir cet espoir, et dire aux gens, le royaume est là. Vous le voyez pas, vous comprenez pas, on a l'impression que tout est noir, que tout va mal, mais non, ça va bien. Jésus a gagné. C'est plus que du sursis, là. C'est fait. Et on a gagné. Les disciples n'avaient pas encore vu la victoire, mais je pense qu'il y avait un peu de ça, cette idée que déjà Jésus était là, que l'obscurité, que Satan était déjà battu en brèche, était déjà sur la défensive, était déjà en panique en quelque sorte. Et donc ils font bien leur mission, et on voit qu'Hérode se pose des questions. Verset 7, Hérode le tétrarque apprit tout ce qui se passait et il était perplexe, car les uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, alors qui est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Pourquoi est-ce que Hérode cherchait à le voir, à votre avis? Hérode, c'est un personnage qu'on voit dans pas mal de passages. On voit notamment et surtout sa relation avec Jean-Baptiste, où il avait une certaine curiosité. Il aimait entendre Jean-Baptiste discourir, mais Jean-Baptiste ne le laissait pas tranquille, ne le laissait pas sa conscience tranquille, et lui montrait ses péchés, notamment avec sa femme est une situation immorale, et il finit par, suite à toute une petite histoire et une petite intrigue, faire décapiter Jean, et on se doute que sa conscience devait le travailler, il devait pas être tranquille, et donc là on a quand même l'impression qu'il sue un petit peu à grosses gouttes. Il se dit, oula, qu'est-ce qui se passe là? C'est Jean qui est venu me chercher, là, j'ai peut-être à me faire du souci. Il disait, pourtant, je l'ai tué, j'espère que on a bien fini les choses. Il a envie de le voir pour vérifier, peut-être aussi pour un petit peu s'amuser, c'est un petit peu l'impression qu'on avait avec Jean-Baptiste. C'était une impression de, je sais pas moi, si vous avez des gens que vous aimez bien entendre parler, qui discourent bien, qui parlent bien, qui font des blagues, j'en sais rien. Moi, il y a des émissions de télé qui sont amusantes ou agréables à regarder parce que les gens sont doués pour discourir, sont doués pour parler. Peut-être que Hérode, c'était un peu, il voulait un quelqu'un pour amuser la galerie dans son palais. Peut-être qu'il, on voit plus tard dans l'histoire qu'il a envie que Jésus fasse quelques miracles, un peu pour le, comme un petit magicien, quoi, qui ferait venir à la cour, qui ferait quelques tours de magie pour amuser ses hôtes. Et Jésus ne lui donne rien. Il y a un moment où Jésus cherche à le voir et où Jésus le traite de renard et dit qu'il ne va pas aller le voir. Plus loin, quand il est emprisonné avec Pilate avant d'être exécuté, Hérode vient le voir espérant un petit miracle ou un petit quelque chose et Jésus ne lui parle même pas. Hérode le cherchait Jésus, mais un petit peu pour les mauvaises raisons. Il comprenait que c'était un homme puissant, mais il n'acceptait pas qui il était vraiment et les conséquences de ça. On va parler de ça après, mais cette idée de savoir qu'on peut savoir plein de choses sur Jésus, plein d'anecdotes sur sa vie, plein de vérités, mais ça ne suffit pas. Il y a un besoin de savoir ce qu'on croit personnellement à propos de Jésus et comment on connaît Jésus. Pas simplement ce qu'on croit à propos de lui, mais est-ce qu'on connaît Jésus ? Qui est-ce qu'on connaît ? Et on voit que Hérode, lui, ne le cherchait pas pour les bonnes raisons. Il se méfiait peut-être aussi un petit peu. À l'époque, on s'attendait à ce que le Messie soit quelqu'un qui vienne mettre en place un royaume. Alors, c'est tous on l'a entendu, on connaît ce fait que Israël était opprimé par les Romains et s'attendait à un libérateur, quelqu'un qui viendrait, qui les libérerait de cette oppression. Et il y avait des épisodes où ils pensaient qu'un tel était peut-être le Messie et il y avait une révolte et les Romains en général faisaient pas de quartier et ça repartait de plus belle. On voit même que l'histoire des Juifs, l'histoire d'Israël finit en l'an 70 avec les Romains qui viennent et qui rasent carrément la ville et qui mettent fin à ces luttes avec les Juifs. Mais ici, avec Jésus, il y a cette attente qui était complètement partout dans la culture juive, qui était présente, qui était c'était un peuple qui s'attendait à ça. Ça faisait des années, des dizaines, des centaines d'années qu'ils s'attendaient à ça. Et donc il y a toujours cette petite possibilité que c'est peut-être le Messie. Et là aussi, Hérode se dit, bon, bah, je vais peut-être me méfier, il faudrait peut-être que j'aille vérifier qu'il ne va pas me prendre mon pouvoir et me mettre à la porte, dans le cas gentil des histoires à l'époque. Moi, ça m'a parlé de me demander comment les Juifs s'attendaient à quelque chose, mais ne s'attendaient pas à la bonne chose. S'attendaient à un Messie qui les libérerait physiquement, enfin, par rapport aux Romains. Et on voit avec l'histoire des disciples et toute l'histoire qui s'ensuit qu'ils sont à côté de la plaque et Jésus a besoin sans arrêt, notamment avec les disciples, de les remettre dans le droit chemin. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est à qui je m'attends ? À qui vous attendez-vous ? Est-ce que vous attendez à quelqu'un ? Est-ce que vous attendez à Jésus dans votre vie aujourd'hui ? Est-ce que vous venez là en vous attendant qu'il vous parle ? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il change votre vie en bien ou en mal, qu'il vous pousse à des choses ? Est-ce que vous attendez à ce qu'il a à vous dire ? Est-ce que vous attendez à en quoi ou comment j'attends Jésus ? C'est on a tellement de difficultés parfois à rester sur ce qui vive. Jésus nous le répète sans arrêt qu'il faut être prêt, s'attendre à son retour, s'attendre à ce qu'il a à nous dire. En qui est-ce qu'on met notre espoir ? Les Juifs, ils s'attendaient à un Messie. Les disciples ici, eux, ils ont mis leur espoir en Jésus sans pourtant avoir vraiment compris ce que ça allait impliquer. Est-ce qu'on, Est-ce qu'on met notre espoir dans les prochaines présidentielles? Est-ce qu'on met notre espoir dans le nouveau patron, dans le nouveau travail, dans le nouveau salaire, la personne pour votre vie, le mari ou la femme? En quoi est-ce qu'on met notre espoir? À qui est-ce qu'on s'attend? Les Juifs, eux, s'attendaient à un Messie qui allait venir changer leur monde. Et nous, il faut qu'on se pose cette question, et nous, on a une réponse, mais il faut qu'on sans cesse, on se remette ça en tête. Est-ce que je m'attends à ce que ce soit Jésus qui fasse les choses? Et Jésus est là aujourd'hui, il frappe à la porte de notre cœur. Il veut que nous ayons une vie abondante aujourd'hui. Et on le voit même dans ces passages, Jésus, c'est pas seulement quelqu'un qui va nous dire « Ta vie, je m'en fous, tant que tu crois en moi et que tu finis au ciel, ce qui t'arrive sur terre, je m'en soucie pas. » C'est pas Jésus, ça. On l'a vu la semaine dernière, la petite fille qu'il ressuscite, il est le premier à dire « Donnez-lui à manger. » La femme qui était atteinte d'une fuite de sang, il veut la restaurer complètement. Il l'amène sur la place publique pour que tout le monde sache qu'elle est guérie, pas seulement elle. Il veut le meilleur pour nous. Il veut répondre à nos besoins matériels, nos besoins psychologiques, nos besoins spirituels. Moi, je limite tellement Jésus, je limite tellement la portée de ce qu'il veut faire pour nous. Même avec vous, même avec les gens du dehors, j'ai tellement de foi, j'ai pas de foi. Il veut nous guérir, il veut tellement pour nous. Jésus est notre bonne nouvelle. Quand je lis ces passages, quand je viens dans les évangiles, et surtout quand je dois essayer d'enseigner les évangiles, je sais pas si ça vous arrive, mais quand je lis ces passages, j'arrive pas à les expliquer. Ces histoires des douze, ces histoires des guérisons, des miracles, de pourquoi elle fait les choses. Là, on va regarder la multiplication des pains. J'arrive pas à les expliquer. Quand j'essaie de me dire, je travaillais hier soir et je me dis, on a envie de bien comprendre, de bien saisir. Et non, je suis toujours défait face à Jésus. J'arrive pas à expliquer Jésus. Et c'est bien comme ça. Mais des fois, c'est difficile quand on veut, surtout quand on veut le partager, quand on veut se tenir devant d'autres et leur expliquer. On en sait assez, mais parfois ces textes sont difficiles, et notamment cette histoire de ce miracle avec la nourriture, les 5000. J'ai toujours du mal en venant à ces choses, les histoires de guérison aussi. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression de pas le comprendre, de dire je le vois pas moi dans ma vie, je comprends pas Dieu, comment ça m'a l'air tellement différent de ce que je connais. Et Dieu veut qu'on lutte avec ces choses. Dieu veut qu'on lise ces passages et qu'on cherche à comprendre, qu'on lui demande pourquoi, qu'on lui demande ce que ça nous parle, ce qu'on doit en retirer. Essayez, pendant qu'on continue cette étude sur Luc, essayez de lire ces passages avec un regard nouveau. On les a lus, on est passé dedans, on les lit à la va-vite, on passe dessus et on oublie. On dit oui, la multiplication des pains, c'est bon quoi. Il a fait deux fois même, donc c'est vraiment, c'est plus des nouvelles quoi. Alors on va essayer quand même. Ici c'est un peu la fin de son ministère en Galilée. On regarde après avec les disciples, mais c'est un petit peu il va après ces passages-là se diriger vers Jérusalem et vers la crucifixion, et donc sa période, le ministère de Jésus se divise en deux grandes parties, le ministère en Galilée et le voyage jusqu'à Jérusalem, et puis sa mort, sa résurrection. Et Ça marque aussi un changement entre le moment où il fait beaucoup de choses avec des foules. Il enseigne les foules, il fait beaucoup de guérisons, beaucoup de choses avec le grand nombre. Un changement où il passe beaucoup plus de temps avec ses disciples, à les enseigner, et moins de temps avec les foules. Et ici, on a l'impression que c'est un petit peu le dernier moment et qu'il a envie de bénir cette foule, peut-être de bénir ces Galiléens qui vont être vus pour la dernière fois, entre guillemets, pour lui. Et donc, il y a les apôtres qui reviennent, qui racontent tout ce qu'ils ont fait, qui sont sans doute super contents. On voit que même Jésus a envie de les entendre, a envie de passer du temps avec eux, de découster tout ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé. Il a envie qu'ils se reposent aussi un petit peu. Il sait que ce ministère, lui-même sait que ce ministère est fatigant, que l'idée que de servir les autres est quelque chose qui prend des forces. Il a envie de prendre du temps avec ses disciples et de se reposer, de les encourager, d'écouter ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé, même si lui le sait déjà, mais il a envie d'être avec ses disciples. Et là, il y a une foule qui les envahit, qui les suit, qui les presse, qui les écrase presque. Et notre réaction d'homme, ce serait d'être frustré, de dire mais lâchez-moi quoi. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois avec le travail, peut-être avec vos enfants, quand vous en avez plusieurs qui tous vous parlent en même temps et qui veulent tous avoir votre attention et que vous avez assez d'attention pour une personne à la fois. Et là, c'est 5000 hommes, la foule. Et quand à cette époque-là, on comptait les hommes, et donc il y avait peut-être, on ne sait pas, peut-être 10, 15, 20 000 avec les femmes et les enfants. C'était une sacrée foule. Et Jésus a compassion de cette foule. Il veut les nourrir, il les nourrit spirituellement, il les enseigne encore. Et on va voir qu'il se soucie encore une fois de leur bien physique, de leur nourriture spirituelle, mais aussi de leur nourriture matérielle. Ici, les disciples viennent le voir et lui disent ce qu'il devrait faire. C'était pas forcément de mauvaise foi. Il se souciait. On a l'impression qu'il se soucie des hommes qui sont là. Ils disent à Jésus, mais faut qu'ils n'auront pas à manger, quoi. Ça va être un problème. Et la réponse de Jésus est toujours là est marrante pour moi. Il leur dit mais faites-leur donc à manger, quoi. C'est qui est-ce qui a fait à manger pour 10 personnes? Qui a fait à manger déjà pour 10 personnes? 10? Ouais, quand même 10, non? Ouais. 50? 100? J'essaie de penser, si je vais à Leader Price, est-ce qu'il y a assez à manger dans le magasin pour 5000 personnes? Je sais pas, j'ai aucune idée. 5000 hommes, s'ils étaient 10, 15 000, je me dis que sans doute que non, quoi. Ce serait marrant d'aller à 5000 là, au Leader Price, là, acheter des trucs là. Alors Jésus là, il pousse les disciples, il leur met un petit coup dans le, il les pousse un petit peu et leur dit. Et je pense que c'était pour leur, peut-être pour les ramener aussi à une certaine réalité, peut-être pour les mettre au défi, j'en sais rien, mais de dire vous avez fait plein de choses et vous aviez, mais il faut tirer votre dépendance de moi encore. Il les pousse à voir qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, ils n'ont pas assez, ils n'ont pas de quoi nourrir ces gens. C'est Jésus le pain de vie. Dans Jean, cet épisode des multiplications des pains est suivi par tout un passage où Jésus enseigne sur le fait qu'il est le pain de la vie et que c'est lui la nourriture, en quelque sorte, pour nos âmes. Donc les disciples sont là, bon ben on va bien voir ce qu'on va voir, mais ils savent pas à quoi s'attendre encore, et il fait asseoir les gens, et Jésus, comme on le sait, prend le peu qu'ils peuvent leur amener, et le multiplie et le donne aux gens, et il y en a plus que ce qu'il faut. Les gens sont rassasiés, il y a trop à manger. Jésus bénit souvent en abondance, avec extravagance. Il ne nous donne pas juste ce qu'il faut ou juste ce à quoi on s'attend, mais souvent il nous donne plus. Et ce passage-là, c'est toujours, là aussi, c'est toujours difficile pour moi. On est moderne, on est rationnel, on regarde les tours de magie à la télé, on a envie de voir les ralentis pour voir le truc caché dans la manche. J'ai envie de voir la caméra de dessus et de voir Jésus qui sort les pains en fait de derrière, ou comme un magicien. J'ai du mal à l'accepter, quoi. On a du mal à accepter les miracles de Jésus, mais c'est un miracle. Il y a même des commentateurs. J'ai même lu des commentateurs qui, pour expliquer cette multiplication des pains sans avoir accepté de miracle, disent qu'en fait les gens avaient tous à manger, mais avaient peur qu'ils allaient avoir à le partager. Donc ils ont tous, personne n'a rien dit. Et puis Jésus a pris de la nourriture et a commencé à donner. Et là, les gens ont tous commencé à sortir leur nourriture pour le distribuer. Tellement les gens n'ont pas envie d'accepter le fait que c'était un miracle, ils arrivent à trouver des explications comme ça. J'étais un petit peu choqué quand j'ai lu ça, mais acceptons les miracles. Jésus nous dit qu'on doit accepter le royaume de Dieu comme un petit enfant. Un petit enfant, quand on lui dit qu'on a piqué son nez, il nous croit. Il accepte les miracles. Il est excité à l'idée de miracles. Il adore les miracles. On devrait adorer les miracles de Jésus. On devrait être fiers des miracles de Jésus. Tous mangent et sont rassasiés. Ça finit en grande fête. Verset 18 dans Luc. Un jour que Jésus pria à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. Les foules, qui disent-elles que je suis ? Ils répondirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des anciens prophètes ressuscités. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Là, on arrive à un moment charnière dans le ministère de Jésus, comme je vous ai dit. Quelques versets plus loin, dans Luc 9, 51, on nous dit que Jésus tourne le regard vers Jérusalem, qu'il se concentre là-dessus. C'est un petit peu comme jusqu'à maintenant, il était concentré sur les gens qui étaient autour de lui, et on a l'impression qu'à partir d'ici et de cette confession de Pierre, Jésus, sa vision des choses, c'est « je vais à Jérusalem, j'obéis à ce que Dieu le Père m'a demandé de faire, et c'est mon objectif ». Il fixe le regard sur son objectif. Et ça rend cet épisode d'autant plus intéressant, parce que c'est un petit peu comme si Jésus, on a l'impression presque qu'il se dit « bon, j'ai fait plein de choses, voyons si mes 12 là, si les gars que j'ai choisis, voyons s'ils ont saisi quelque chose. Si... » C'est comme s'il se dit « je les ai traînés, j'ai fait tout ça pendant quelques années, maintenant il faut que j'aille à la croix. » Est-ce que mes 12 là, ils ont saisi ce qu'il faut pour que tout ça, tout le plan suive ? Alors évidemment, Jésus n'est pas dans une telle incertitude, n'est pas dans une telle attente, mais c'est un petit peu comme s'il dit, mais ok, on va voir s'ils ont saisi. Moi, je pense que Jésus, quand Pierre a dit que tu es le Christ de Dieu, je pense que Jésus, il a dû tressaillir de joie en lui, de se dire, ils comprennent rien à ce que ça implique. Ils ne comprennent pas ce que ça va leur coûter, Ils ne comprennent pas ce que ça va dire pour le monde, mais au moins ils ont saisi ça. On voit que les gens, c'est encore les mêmes choses que ce que Hérode entendait, les bruits les rumeurs qui couraient, on ne sait pas trop qui c'était. Jésus, donc Pierre lui dit « Tu es le Christ de Dieu ». Et c'est intéressant, là, le verset 21 leur recommande sévèrement de ne le dire à personne. Dans une autre traduction, sur laquelle je travaillais, il y avait marqué qu'il les rabroua. J'ai dû le chercher dans le dictionnaire, parce que je ne connais pas. Dans ton texte, on comprend, mais c'est traiter quelqu'un dans le dictionnaire, c'est dérivé du moyen français brouer, écumer, puis gronder. Traiter quelqu'un avec rudesse, le plus souvent pour rejeter ce qu'il dit ou propose. Par extension, réprimander. Ils ont la bonne. Mais Jésus leur dit non. Je pense que les disciples, ils devaient être encore interloqués, bien qu'ils commençaient à avoir l'habitude de se dire mais pourquoi on n'a pas le droit de le dire et pourquoi. Et je pense tout simplement que Jésus voulait éviter que les gens n'essayent de faire une rébellion contre les Romains et le fassent roi tout de suite et qu'ils amènent sur eux une colère incroyable de la part des Romains. Et puis c'était pas l'objectif de Jésus, et donc il veut qu'il garde ça pour eux, mais il veut pas que les gens autour de lui le sachent. Il a pas envie, ils ont pas compris ce que ça impliquait. Et là c'est cette question là, c'est par rapport à Hérode, par rapport à ce qui suit, par rapport à la conclusion. Ils pensaient que Jésus était un Messie qui allait leur amener une révolution, un nouveau royaume. Et là aussi, cette question, qui est Jésus pour moi ? Dans 2 Timothée 1, 12, Paul dit « Je sais en qui j'ai cru ». Il ne dit pas « Je sais ce que j'ai cru », il sait en qui j'ai cru. C'est une connaissance de personne. Et c'est quelque chose qu'on doit se poser aussi comme question. Souvent, je pense, qui est Jésus pour moi ? Comment je le laisse m'affecter par cette réponse ? C'est difficile. Et là aussi, est-ce qu'on est prêt à en assumer les conséquences ? Parce qu'ils disent, bon, tu es le Christ de Dieu. Et ils se disent, bon, ben, c'est bon, on va régner. On voit que même après le petit discours qui suit plus tard, ils sont encore là à se battre pour savoir qui va être le premier ministre, qui va être un petit peu comme nos gouvernants. Ils ont l'exemple, même à l'époque, le même exemple de se battre pour les petites choses. Et Jésus il leur dit d'accord, oui, vous le dites à personne, et maintenant je vais vous expliquer ce que ça implique. Et donc il leur explique qu'il faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite. Et il continue en disant, et vous aussi vous devez prendre une croix, si vous voulez me suivre, vous devez perdre votre vie. C'était déjà, je pense, assez difficile pour les disciples de se dire, bon, bah, il va aller à Jérusalem, il va mourir plutôt que de faire un royaume et qu'on puisse régner avec lui. Jésus représente son grand projet. Voilà mon objectif, mes promesses de campagne. Bon, ben, je vais à Paris et je me laisse crucifier sur la Concorde. C'est pas mal ça comme promesse de campagne. Là, il change de direction complètement, il les prend complètement à contre-pied. Et Jésus, lui, il suit la direction, il suit l'obligation, le projet de son Père. C'était son devoir, ce qu'il faisait dans sa vie, c'était obéir au Père. Et nous aussi, en tant que chrétiens, on doit avoir cet objectif, et on le voit ici après. On est sous le commandement de Jésus. On est comme des militaires qui devons nous soumettre à Jésus, à ses ordres. Ici, on se demande comment ils ont compris l'histoire là des quand il leur dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Là aussi, Jésus n'était pas encore crucifié, n'était pas encore ressuscité. Nous, on le lit a posteriori, mais pour eux, c'était vraiment à l'époque. On en parle et on en a assez parlé, mais cette idée que la croix, c'était vraiment un instrument de torture pour les pires criminels, c'était horrible, c'était une honte absolue, c'était quelque chose dont on parlait pas, c'était... Mais l'idée là, c'est que Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit être prêt à endurer le pire qu'un homme puisse lui faire. Il doit être prêt à endurer tout ce qu'un homme, la pire chose qu'un homme puisse vous faire. Il faut que tu sois prêt à l'endurer pour me rester fidèle. Et la croix, c'est pas simplement des difficultés qu'on a dans la vie de tous les jours, un patron qui nous embête ou la caissière à Leader Price qui est toujours un peu trop lente ou... Non, c'est des choses qu'on endure parce qu'on dit « je crois en Jésus ». C'est des choses que les gens nous font parce qu'on dit qu'on s'identifie à Jésus. C'est ça que Jésus indique par cette idée de croix. C'est pas « j'ai mal aux pieds, c'est ma croix à porter ». Non, on rabaisse cette idée avec quand on fait ça. C'est des choses quand on est fidèle à Jésus, quand on s'identifie à Jésus, quand on porte un gros t-shirt Jésus, c'est là et que les gens nous disent mais t'es ridicule ou pire. Ça c'est la croix que Jésus veut qu'on porte. Il veut qu'on renonce à soi. Ça veut dire limite oublier qu'on existe. Je sais pas si ça vous arrive, peut-être dans votre travail ou si là encore si vous êtes marié, vous avez des enfants que vous voulez vous occuper des enfants, ou vous occuper de quelqu'un, ou aider, ou faire une tâche, et que vous êtes tellement concentré dessus que vous oubliez peut-être de manger, vous pensez pas, et au bout d'un moment vous dites, oh là là, mais en fait je suis fatigué. C'est ça, cette idée de renoncer. C'est se dire, on est tellement concentré sur ce que Jésus veut, qu'on pense plus tellement à, on se dit, tiens, en fait, ouais, j'avais oublié, quoi. On est content d'être complètement concentré dessus. Et puis il y a cette idée de sauver sa vie en la perdant, ou de perdre sa vie en la sauvant. Et une des idées là, pour finir, que j'ai bien aimé, c'était que on doit dépenser notre vie et pas économiser notre vie. Pas combien est-ce que je peux récupérer, combien est-ce que je peux accumuler, combien est-ce que je peux garder pour moi, mais combien je peux donner, on doit dépenser, combien est-ce que je peux sortir de moi. Pas quel est le minimum syndical, mais quel est le maximum que je puisse faire. Et j'espère qu'on comprend tous bien cette idée simple qu'on peut arriver à la fin de notre vie si on n'a pas Jésus, si on n'a pas dépensé, même à la limite si on arrive et qu'on... Je pense qu'on pourra avoir peut-être des regrets, alors je ne sais pas comment ça va se passer exactement, mais je me demande si on n'aura peut-être pas certains regrets à un certain moment de se dire on aurait pu faire plus. Quand on verra vraiment Jésus, quand on sera dans sa présence, de se dire j'aurais pu faire plus. Alors je pense qu'au ciel, on n'aura pas... ce genre de poids qui nous encombre, mais on peut faire plus pour Jésus. On doit faire plus pour Jésus. On peut tous en faire plus. Et puis l'idée de pas avoir honte de dire quand les gens nous demandent cet après-midi ce qu'on a fait ce week-end, on dit ben j'étais à l'église tout à l'heure. Enfin, vous savez ce que c'est, l'idée d'avoir honte de quelque chose ou de quelqu'un et de ne pas vouloir en parler. Et Jésus nous dit qu'il ne veut pas qu'on ait honte de lui. Et l'idée, c'est cette sagesse de se dire qu'on, si on suit Jésus, si on suit son ordre de marche ici, son projet de bataille, ce qu'il nous a donné comme ordre de marche, on n'aura pas à le regretter après. On va avoir gagné sa vie, on va sauver sa vie pour l'éternité. Et quand Jésus va venir pour juger le monde, pour nous juger chacun avec le Père, avec les saints anges dans sa gloire, Jésus va dire, lui il est avec moi, et on n'aura pas à le regretter. Et ça c'est... Tout ça, c'est des conséquences d'une certaine manière de la réponse à ce qu'on dit quand Jésus nous pose la question « Qui est-ce que je suis pour vous ?» Il nous dit « Tonio, qui est-ce que je suis pour toi ?» Et si je dis « Bon ben, oh Dieu, là-bas, ou est-ce que je dis « Tu es mon Seigneur » et ça veut dire que je fais ce que... Quand on dit que quelqu'un est son Seigneur, ça veut dire qu'on lui obéit, donc on fait ces choses. Et à ce moment-là, on n'aura pas à le regretter si Jésus est notre Seigneur, s'il est pratiquement notre Seigneur et si on obéit à ce que notre Seigneur nous demande. Ce n'est pas évident. On va prier pour que Dieu nous aide à agir correctement. Le verset 27, on le verra la prochaine fois. Je le laisse de côté. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour qui tu es. Seigneur, aide-nous à pouvoir répondre à cette question par notre vie, par nos actions, pas seulement par nos pensées, nos connaissances intellectuelles, Seigneur, mais de dire tu es Jésus mon Seigneur et ça veut dire que je t'obéis. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, Seigneur, nos insuffisances, Seigneur. Merci parce que ta mort à la croix, ta résurrection nous couvre, que tu nous pardonnes, que tu nous fais grâce. Seigneur, aide-nous à marcher de plus en plus avec toi et de vivre plus pour toi dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, Seigneur. Merci pour ce matin. Bénis notre temps de communion fraternelle, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen.